et bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h01.
Et vous êtes bien sur Radio Canu. Et ce soir, on va parler de... Vas-y, parce que attends, j'ai pas de micro.
Moi je vais raconter des trucs pas très importants, de la brève, de l'info anecdotique, du Ségolène Royal, tu vois le genre. Mais quand même aussi un petit peu de la manif à Alger aujourd'hui.
Ah.
Et toi, de quoi tu vas nous parler?
Et moi, je vais parler de deux actions qui ont eu lieu cette semaine. Ensuite, je vais parler de diesel, tiens.
Dis donc.
Ouais, t'imagines. Et bien sûr, c'est un peu notre marronnier. On va parler de Sea-Watch.
Bon,
pas que pour des bonnes nouvelles, comme souvent quand on parle de Sea-Watch.
On redonnera en fin d'émission, mais notez d'ores et déjà, si jamais vous allez lâcher l'antenne bientôt, que la manif de demain, c'est sans beaucoup de surprises, à 11h30, à Sans Souci.
Manufacture des tabacs, voilà.
Du mercredi.
Bah, c'est parce qu'on a eu une arrivée un tout petit peu précipitée. Voilà.
Allez, je vais commencer par une brève qui est pas vraiment une information pour n'importe qui aurait écouté une radio dans les dernières 24 heures. Mais on parle de violence policière et cette fois-ci, c'est pas que nous qui en parlons, puisque Castaner, donc le ministre des flics, a commencé lundi en trouvant que cette fois ça suffit et Macron lui a emboîté le pas mardi. Autant dire, waouh, l'exécutif s'agite contre les violences policières parce qu'il est temps de réagir. Il est temps, ouais. comme qui dirait. Alors, on peut quand même se demander un peu pourquoi. Alors, bon, d'un côté, quoi, il paraît qu'il y a beaucoup de vidéos qui montrent des flics qui se lâchent, en dehors de tout cadre légal, des trucs quand même vraiment indéfendables. L'histoire du tir de LBD à bout portant jeudi dernier, l'histoire du croche-patte fait par un flic à une manifestante arrêtée samedi. Bon, des vidéos qui circulent, quoi.
Mais c'est vrai que, bizarrement, quand même, le gouvernement a l'air d'être là où il est le plus choqué, hein, quand même, c'est pour cette histoire de croche-patte.
Oui, c'est vrai.
Je veux dire, il y a quand même un type qui est mort, mais non, l'histoire du croche-patte a l'air d'avoir été
ça a l'air d'être.
C'est pas cool.
Mais bon, de toute façon, si on y réfléchit, ça fait quand même. Allez, disons, au moins depuis la loi travail en 2017, c'était un autre président. Mais après, quand même énormément, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, ça c'était bien le président qu'on a maintenant, qui a des vidéos comme ça qui sortent, mais alors tout le temps. Je veux dire, il y en avait déjà avant, en réalité, depuis qu'on peut poster des vidéos sur Internet, il y en a. Mais là, depuis 2017, c'est vraiment un rythme, en temps de mouvements sociaux, c'est un rythme incroyable, quoi, de vidéos qui sortent. Où on voit des flics qui tirent n'importe comment de manière complètement pas réglementaire, des flics qui frappent des manifestants déjà arrêtés, y compris des gamins. Enfin, il y avait une histoire comme ça pendant la loi travail, par exemple, un lycéen de 15 ans qui était, il y avait deux flics qui le tenaient, un troisième qui arrive et qui lui met une énorme patate dans la tête. Des flics qui éborgnent des manifestants qui discutent calmement après la manif. Bon, mais tout le temps, toutes ces vidéos et jusqu'à la semaine dernière. Pendant toutes ces périodes, le ministre de l'Intérieur, les différents ministres de l'Intérieur, puisqu'on parle sur deux gouvernements, les premiers ministres et les présidents, ont quand même largement couvert les flics tout le temps. Et puis là, tout d'un coup, bah, c'est plus le cas. Alors, Macron a même demandé à son gouvernement de lui présenter rapidement des mesures pour améliorer la déontologie des flics. Le lendemain du jour où le ministre de l'Intérieur avait dit que les flics devaient être exemplaires. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors, nous, on en parle surtout parce que ça aurait été bizarre de ne pas en parler du tout à Scanu Info, mais en réalité, on n'a rien de particulièrement malin à en dire parce que, voilà, tout le monde sait ça. Et comme tout le monde, bah, on se pose la question de savoir ce qui nous vaut ce revirement. Alors, est-ce que c'est un rapport avec les fameuses vidéos du journal Le Monde qui les a quand même un peu multipliées, des vidéos qui décortiquent très précisément quelques situations de blessures graves et injustifiables infligées par les forces de l'ordre? Ou alors, est-ce que la mort de ce livreur Cédric Chouvia, pour une fois un blanc, tué en plein centre-ville, au moment de son interpellation, est-ce que ça peut avoir été quand même quelque chose de plus grave que de tuer un bronzé en banlieue? Ou alors, est-ce que ça signifie vraiment une sorte de changement global de tactique de la part du gouvernement? Bon, aucun moyen de le savoir et de le comprendre vraiment pour l'instant. On ne peut pas non plus vraiment savoir comment vont réagir les flics, qui étaient pas tellement habitués depuis un sacré paquet d'années à se faire souffler dans les bronches par les politiques. Voilà. Tout ça nous rend curieux.
Et dans les brèves, hein, un envoyé spécial nous a contacté pour dire que place Gabriel Péri, hein, ça a un peu chauffé ce soir, puisque alors moi en venant à la radio, en passant devant, effectivement il y avait quand même plusieurs voitures de flics, genre trois voitures de la muni, mais voilà, rien de complètement dingue non plus. Et donc ce deuxième informateur anonyme nous avait précisé que une voiture cramait côté 3e et sur la place, et que le quartier était en effervescence autour de cette voiture qui brûlait. Voilà, on n'a pas plus d'informations de qui était cette voiture, tout ça, nous le saurons plus dans le prochain édition, mais le suspense est là.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors, eh bien, on va continuer avec les actions qui ont eu lieu cette semaine. Dans le cadre du mouvement contre les retraites et plus généralement contre le ras-le-bol de ce gouvernement, on pourrait dire. Tout d'abord, alors comme il l'avait annoncé, hein, les personnels mobilisés de l'énergie ont procédé à des coupures d'électricité et à des passages en heure creuse. Hier, à Besançon, 6800 foyers ont été privés d'électricité. Cela concerne trois quartiers et une zone commerciale. On imagine que la cible étant la zone commerciale. Et c'est 32 000 foyers dans la région qui ont pu aussi bénéficier de la tarification heure creuse. Alors bon, les articles disent pas pendant combien de temps, tout ça, mais voilà. Ça c'est quand même plutôt un nombre de foyers comme ça, c'est plutôt un manque à gagner important pour Enedis. Parce que vous voyez, si vous êtes en heure creuse pendant même si c'est une semaine, il y a quand même de peu de chances que ça tienne aussi longtemps, mais même si ça va pas vous changer beaucoup sur votre tarification. Mais voilà, en gros, c'est l'idée, c'est de faire perdre du pognon, en tout cas de jouer sur cette pression-là, et au niveau de l'accueil des usagers, en général, les gens préfèrent être passés en heure creuse plutôt que d'être privés d'électricité. Bon, voilà. Mais il faut quand même savoir que pour procéder à ces coupures ou ces changements de tarification, les agents prennent de sacrés risques, soit en intervenant directement sur des postes de transformation, et là, bon, bah, même si c'est leur boulot, il y a quand même toujours un risque d'électrocution, soit en intervenant dans les bureaux, là où il y a les postes qui supervisent et dispatchent l'électricité. Hein, vous voyez, c'est un peu comme des espèces de boutons et d'ordinateurs. Bon, là, le risque est surtout disciplinaire, puisque comme il s'agit d'endroits quand même plutôt stratégique, hein, où un simple bouton coupe l'électricité de tout un secteur, autant vous dire que c'est plutôt ambiance bunker avec badge, porte, sas, gardien, etc., etc. Voilà, donc faire ce genre de choses, c'est pas voilà, si on s'imagine, mais pourquoi ils le font pas tout le temps, pourquoi ils le font, voilà, c'est que tout ça comprend quand même beaucoup de risques, et qu'il faut au sein d'un endroit être quand même un paquet de collègues qui ont sacrément confiance les uns envers les autres pour faire ça à plusieurs et limiter la casse de leur côté. Voilà. L'autre grosse action de la semaine, et donc ça continue sur plus on est nombreux, plus on est fort, c'est les employés du centre de tri d'Evry, appuyés par les grévistes de la RATP, de la SNCF et d'autres, qui hier sont venus à 400 sur le centre de tri, ont forcé le barrage de flics en leur courant dessus et ont coupé occuper le site en prenant soin de souder le portail à lui-même et en soudant également les poteaux, des poteaux pour rendre plus difficile toute tentative de déblocage. Ce centre de tri, il gère 1,5 million de... Ah, je sais plus, j'ai plus en tête les chiffres, si c'est 1,5 million de tonnes de déchets ou si c'est 1,5 million de... Non, c'est pas, ça peut pas être 1,5 million de foyers. Donc ça va être 1,5 million de tonnes de déchets, on n'a qu'à dire. Allez. Et voilà. Et du coup, bon bah, on aurait pu imaginer tout le bordel que ça aurait créé, parce qu'en fait, bah, les camions poubelles auraient ramassé les ordures et puis les auraient déposées nulle part. Bon, l'idée était excellente, tout a fonctionné, mais malgré ce bel essai, il ne sera pas transformé en occupation, puisque les flics qui, eux, ont sauvé leur peau dans la future réforme, ont délogé sans vergogne les grévistes ce matin à 8h et ont interpellé deux personnes.
Canu Info.
Et on va. Qu'est-ce qu'on. On va,
ah
on,
non,
qu'est-ce
que... c'est moi qui parle et après tu mets de la musique.
Ah, vas-y, parce que tu me faisais dessiner, c'est ça que tu dis. D'accord, vas-y.
Alors, peut-être aux environs de 2000 étudiants ont manifesté hier à Alger contre le régime en réclamant une transition démocratique en Algérie. L'Algérie où le mouvement de protestation populaire se poursuit depuis bientôt un an. On en est à 47 semaines et l'année en compte 52. Ça avait commencé au mois de février. Et donc le mardi à Alger, c'est plutôt les manifs des étudiants, puisque les manifs pour tout le monde, c'est plutôt le vendredi. Et donc les manifs des étudiants ont parcouru les principales artères du centre-ville pour rejoindre la Grand Poste hier, comme les mardis. La Grand Poste, c'est au cœur d'Alger, c'est le lieu de rassemblement traditionnel des partisans du Hirak. Donc le Hirak, c'est comme ça qu'on appelle ce mouvement de contestation, qui, alors j'avais dit en février, qui a éclaté le 22 février 2019, et dans un premier temps, qui a réussi à virer le président Abdelaziz Bouteflika. Ce président a été remplacé, et puis finalement il y a eu des élections, les opposants étaient contre les élections, mais il y a quand même un nouveau président qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune, qui, d'après les manifestants, est venu par la fraude et placé par les militaires. Monsieur Tebboune, 74 ans, autant dire, c'est pas exactement un jeune. En fait, il y a un jeune dans son gouvernement. Quand il est arrivé, il a dit que maintenant, ça allait plus être pareil, c'était fini, le pouvoir des vieux, tout ça, qu'il allait mettre des jeunes. Il a réussi à en trouver un bonhomme de 26 ans qui, par ailleurs, est un ancien de la sécurité militaire, c'est-à-dire vraiment le service de police politique du FLN. Qui a l'air d'être une parfaite, mais alors une parfaite crapule, et c'est, semble-t-il, le seul dans le gouvernement qui ait moins de 70 balais. Donc, c'est aussi là qu'on en est. Donc, Abdelmadjid Tebboune, qui donc a été élu le 12 décembre 2019, lors d'un scrutin massivement boycotté, est marqué par une abstention record, et donc un des manifestants explique à l'AFP que Tebboune est un fait accompli avec lequel nous devons composer, mais cela ne veut pas dire que nous le reconnaissons. Ce même manifestant pense que le Hirak va se poursuivre et son objectif est, qu'est-ce que c'est ? C'est une transition démocratique. Tebboune n'est pas une fatalité car il pourrait bien ne pas finir son mandat s'il se met en travers de la volonté populaire. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on dit... Alors, quand il est arrivé, il y a un certain nombre d'analystes qui pensaient qu'il allait quand même donner des gages au mouvement populaire. De plein de manières différentes, il aurait pu mettre un gros truc sur les libertés publiques, il aurait pu justement de choisir un gouvernement un peu ouvert, qui aurait fait du renouveau, tout ça. En fait, dans son gouvernement, il n'y a que des anciens ministres de Bouteflika. Il n'y a que des anciens du FLN et des cadres du FLN. Côté liberté publique, c'est que dalle. C'est même plutôt qu'il a renforcé la répression sur les manifs. Et voilà. Et donc, pour la première fois depuis le début des manifs d'étudiants, une plateforme en 14 points qui reprend les principales revendications du Hirak a été dévoilée hier. Les étudiants réclament notamment une transition démocratique et la concrétisation d'une véritable ouverture politique et médiatique. Ils demandent également la dissolution de la chambre basse du Parlement et de toutes les assemblées élues, ainsi que l'organisation d'élections législatives. Les dernières législatives remontent à 2017, d'élections législatives et locales anticipées. Celui qui veut dialoguer avec le mouvement de contestation n'a qu'à prendre connaissance de ses revendications et les mettre en œuvre pour démanteler le système. C'est ce que dit un étudiant rencontré aussi dans la rue par un journaliste de l'AFP. Près d'un an après le déclenchement du Hirak, les opposants continuent d'exiger le démantèlement du système, le fameux démantèlement du système, et le départ de ses représentants au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. Un comité d'experts chargé de proposer un projet de réforme constitutionnelle a été mis en place mardi par la présidence. Le président Tebboune, qui a promis une révision de la loi fondamentale au lendemain de son élection, a entamé fin décembre des consultations pour ce projet de révision de la Constitution. Il a commencé à recevoir des personnalités politiques, etc., etc. Peut-être qu'il finira par nous sortir une sorte de projet de réforme constitutionnelle. Il y a peu de chances que ça change réellement quelque chose à la réalité du pouvoir en Algérie. Voilà. Et ben, est-ce que c'est pas le moment de s'écouter une petite chanson sur le système ?
Mais bien sûr.
Réja Méziane.
Allez, c'est parti. Nous avons écouté
Réja Méziane. La chanson s'appelle Allo Système. Et voilà, bah c'est pas parce qu'on est un peu des vieux qu'on canue info qu'on n'est pas capable de mettre un peu d'autotune. Hein.
Allez, on va parler de Sea-Watch. Alors, à peine le Sea-Watch 3 est de retour en mer qu'il procède déjà à 3 sauvetages consécutifs en une journée. Le bateau est mis au courant de 5 navires probablement en détresse. Il se rend alors rapidement sur la zone pour procéder au sauvetage, appuyé par l'avion Moonbird qui lui envoie directement les infos du genre où se situent les embarcations, combien de personnes sont à secourir, dans quel état sont les personnes pour pouvoir permettre au bateau de faire un espèce d'ordre hiérarchique de ces sauvetages. Voilà, sur les 5, Sea-Watch 3 a pu intervenir auprès de 3 navires et a recueilli 119 personnes à son bord. concernant le troisième sauvetage effectué au milieu de la nuit de jeudi à vendredi. Ça concernait un bateau en détresse dont les autorités et les forces armées maltaises ont revendiqué la responsabilité du sauvetage, c'est-à-dire qu'ils avaient dit qu'ils avaient sauté, qu'ils allaient aller sauver, mais n'ont pas pu intervenir à temps. Lorsque le Sea-Watch 3 est arrivé sur les lieux, il a trouvé les 42 personnes à bord en danger de mort imminente et a été donc légalement obligé d'intervenir. Le 31 décembre précédent, le Sea-Watch 3 part pour un secours au nord de la Libye avec un navire en détresse pour transportant au moins 45 personnes à son bord. Le navire ne retrouve pas l'embarcation. Quelques jours plus tard, un corps échoue sur la côte du nord libyenne. Tout laisse à penser que l'ensemble des personnes se sont noyées également. Aujourd'hui, Sea-Watch 3 et l'Open Arm ont reçu l'autorisation d'accoster en Italie. Encore heureux, déclare l'ONG Sea-Watch, qui tient tout de même à rappeler que cette autorisation d'accoster est la moindre des choses que l'on peut attendre de l'Union européenne. Elle précise également qu'en 2017, les centres européens de coordination de sauvetage maritime ont systématiquement cessé d'assumer leurs responsabilités légales en matière de recherche et de sauvetage, ainsi que en matière de coordination de sauvetage, y compris dans l'attribution de ports de débarquement en Europe pour les survivants de naufrages. La plupart des sauvetages aujourd'hui, et donc depuis 2017, est le seul fait d'ONG civiles telles que Sea-Watch, Open Arms ou tout un tas d'autres, SOS Méditerranée de nouveau, enfin voilà, qui ne bénéficient de plus aucun appui des autorités compétentes. Ce qui veut dire qu'avant 2017, il y avait, alors je ne sais plus exactement le nom que ça avait, on s'en souvient, mais ça a été
arrêté. L'opération Mare Nostrum.
Oui, c'est ça. Où du coup, il y avait les militaires italiens qui s'occupaient des sauvetages. Il y avait un centre de coordination en Italie qui s'occupait de coordonner tout ça et de dire allez là-bas, 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 là-bas. Là, maintenant, plus rien. Du coup, c'est en gros, c'est des ONG avec leurs moyens, leur pognon et le pognon de dons qui mobilise des gens, qui mobilise des bateaux, des avions pour pouvoir secourir les gens.
C'est ça, leurs moyens et les vôtres, hein, si vous avez un petit héritage qui vient d'arriver, n'hésitez pas à en profiter pour faire un gros chécos à l'une ou l'autre de ces organisations. C'est quand même vraiment des gens qui font un boulot incroyablement utile et qui ont besoin de thunes.
C'est ça, et d'autant plus utile que du coup on se rappelle, hein, on en a longuement parlé ici, mais le Sea-Watch 3 avait été bloqué en Italie pendant longtemps, ça doit faire presque 9 mois je dirais peut-être, ou je dis une connerie, non c'était, bon, bref, et en tout cas au moins 6 mois, et donc c'était à l'époque de Salvini, sur des décrets qu'avait mis en place Salvini, tout ça, où le bateau était retenu depuis 15 jours, avait interdiction d'accoster par les autorités italiennes, la capitaine avait forcé cette interdiction en y allant en disant de toute façon là les gens sont en train vont tomber les uns après les autres sur le bateau, du coup j'y vais puis je paierai les conséquences, et voilà, du coup le bateau avait été retenu et Salvini a dégagé depuis, mais on avait reçu des gens de Sea-Watch il y a ça 3 semaines qui avaient quand même précisé que bon, ok, Salvini était plus au pouvoir, ok, ça allait peut-être assouplir quelques trucs, mais en tout cas ça faisait quand même que depuis que Salvini était plus au pouvoir, c'est-à-dire depuis cet été, le bateau aurait pu, s'il avait pas eu des entraves administratives, aurait pu repartir en mer bien avant, et c'est quand même le gouvernement actuel qui a continué à mettre des entraves administratives en disant ah non, ah faut vérifier ça, non, d'après le décret vous êtes pas le droit de partir, enfin bref, ils ont essayé de bloquer au maximum jusqu'à un moment où ce que la justice dit bah non, en fait là le bateau peut repartir, mais voilà, donc ok, Salvini est plus au pouvoir, ce qui fait que les bateaux attendent plus 15 jours avant de pouvoir rentrer en Italie, mais voilà, il y a quand même des entraves qui sont faites, voilà, que en gros de toute façon le Sea-Watch a déclaré ça là, ils ont dit à propos du bateau que c'était la moindre des choses et qu'ils ne se faisaient aucune illusion quant aux droits qui seraient respectés sur les personnes qui vont accoster.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Alors, deux infos différentes sur Ségolène Royal.
Ah, Ségolène Royal.
Qui a bien des malheurs. La pauvre, la première info, c'est que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire à propos de l'usage qu'elle fait des moyens mis à sa disposition dans le cadre de sa mission d'ambassadrice des pôles.
Ah!
Ambassadrice des pôles, qu'est-ce que c'est que ça, me demanderez-vous?
Eh ben, c'est-à-dire que...
Je ne vais pas vraiment vous répondre en réalité, parce que... Ou alors je vais vous répondre de la manière qui est pertinente pour l'info que je vous donne. On ne va pas s'attarder sur les détails, hein. Ambassadrice des pôles, c'est quoi? Un de ces machins que les gouvernements créent pour à la fois faire croire qu'ils prennent l'écologie au sérieux. Ils créent des postes, ils créent des machins, des trucs. Et puis à la fois placer des gens dont ils ne savent pas bien quoi foutre. En l'occurrence, voilà, Ségolène Royal, on te colle ambassadrice d'épaule. Ça te fait un revenu, tout ça. Il y a des malheureux, il faut savoir aussi à des moments pouvoir tendre la main. Et pour cette mission, bon, elle est payée, hein, et puis on lui file des moyens qui sont théoriquement pas pour elle, mais pour sa mission. Et puis on lui file aussi une assistante et un conseiller en com qui sont payés pour être l'assistante et la conseillère en com de l'ambassadrice d'épaule, pas de Ségolène Royal personnellement, théoriquement. Bon, pas de bol pour elle, la cellule investigation de Radio France s'est penchée sur son cas et patatras. Voilà qu'on s'est rendu compte alors de plusieurs choses, hein. D'une part qu'elle a assisté à aucune des quelques réunions internationales, alors je ne me rappelle plus, mais c'est peut-être 3 sur 2 ans, auxquelles elle aurait dû assister dans le cadre de ses fonctions, mais elle n'a pas eu le temps de les placer dans son emploi du temps. Donc des réunions pour aller parler des pôles, de la sauvegarde des pôles, quoi. Et puis, on s'est aussi rendu compte que son personnel a quand même plutôt bossé à des trucs qui n'avaient rien à voir avec les pôles, mais des choses comme la promo d'un bouquin qu'elle a écrit. Et pour ça, ils sont allés, par exemple, faire une tournée au Sénégal. C'est pas exactement les pôles. Alors, quand je dis un bouquin qu'elle a écrit, en tout cas un bouquin qu'elle a signé, ça c'est sûr, écrit, ça reste à vérifier. Voilà, c'est moche. C'est d'autant plus moche que Ségolène Royal, alors bien sûr, elle se pose en victime dans la thématique. Ils ne savent plus quoi inventer pour me faire taire. C'est vrai que sa parole, on s'en rend compte tous les jours, est hyper gênante pour les pouvoirs, pour le système, pour tout ça. Et ben, tu rigoles, mais c'est là qu'on en arrive au deuxième malheur, c'est que oui, sa parole est hyper gênante apparemment, puisque ça doit... A priori, si maintenant elle va se faire virer, c'est pas du tout parce qu'elle n'en fout pas une rame dans le cadre de ses fonctions, ni parce que son petit personnel est employé exclusivement à cultiver sa gloire à elle. C'est pas pour ça qu'elle va se faire virer. Non, 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 c'est bien parce que elle a une parole qui gêne, figurez-vous.
Ah.
Et oui, et c'est pour ça que Édouard Philippe lui a parlé aujourd'hui de son devoir de réserve et a dit qu'il allait lui demander des comptes sur la conception qu'elle avait de ce que c'est que le devoir de réserve. C'est-à-dire que maintenant qu'elle n'est plus ministre de l'écologie, elle trouve que vraiment ce gouvernement fait n'importe quoi sur le glyphosate. Bon, alors pendant longtemps, elle était ministre de l'écologie et là, elle a fait des tonnes de choses. En tout cas, elle a eu des tonnes d'idées, mais à chaque fois qu'elle les exprimait, il y avait un quelconque lobby ou fabricant ou épicier du coin qui disait « Ah ben non, là, non !» Et là, elle faisait « Ah ouais, pardon, excusez-moi, non !» Mais du coup, maintenant, elle trouve que le gouvernement merde sur le glyphosate, ce que je trouve aussi, hein, personnellement. Mais, disons, moi, on m'a jamais donné l'opportunité d'y faire vraiment quelque chose. Et elle trouve aussi qu'il merde sur la réforme des retraites, voilà. Et puis, elle le dit à qui veut l'entendre. Alors, bon, bien sûr, il n'y a pas grand monde qui veut l'entendre, tout le monde s'en fout. Mais, malgré tout, Édouard Philippe a pris la mouche. Et voilà, Ségolène Royal, on lui avait refilé une place bien pépère, il s'agissait juste de se faire oublier. Mais elle a préféré cracher dans la soupe, alors bon, bah, elle se fait virer. Et alors là, les pingouins sont dans la merde.
Canu Info. Du mercredi.
Eh bien, on va continuer et finir. Donc, ce qu'il y a eu info sur, bah, allez, on continue sur l'écologie, hein, parce que comme on parle de Ségolène Royal, on va y aller. Alors bon, on le sait, les véhicules diesel, ça pollue, et ça pollue surtout à cause du dioxyde d'azote, une molécule classée cancérogène par l'OMS. Plus sa concentration est élevée, donc plus il y a de risques pour notre santé. Pour notre santé. Sachant ça, bon bah bien sûr, des mesures ont été prises par les constructeurs, hein, pour baisser ces émissions de dioxyde d'azote, ou alors avoir réussi à faire semblant de faire a réussi à faire semblant de faire baisser ses émissions. Hein. C'est cette espèce de scandale de Dieselgate. C'était Volkswagen qui a été les premiers à tomber. Oups, puis après, tous ont suivi les uns après les autres. Voilà. Une des solutions trouvées et obligatoire depuis à peu près 10 ans, hein, c'est l'installation d'un filtre à particules sur les véhicules diesel, autrement appelé FAP. Comme c'est un tout petit peu plus compliqué qu'un simple filtre à huile qu'il y a sur toutes les voitures, qu'il suffit de changer tous les 15 000 km pour que ce soit bon, là non. Même normalement, plutôt on le change pas. Comme les voitures diesel, hein, c'est leur but normalement de construction. Bon, en France, il y en a beaucoup. Les gens adorent ça. Mais normalement, c'est censé être pour quand on fait beaucoup de routes. Et sinon voilà, les moteurs s'abîment. Bon, tout ça, c'est un peu technique. Mais bref. Mais ce qui fait que, en fait, je dis normalement on le change pas parce que quand c'est des moteurs diesel qu'on en fait qu'en ville, ben du coup ça s'encrasse parce que normalement faut que la voiture soit chaude pour pouvoir faire tout ça parce qu'il est auto-nettoyant.
Ça c'est des moteurs qui sont plutôt pensés et qui en réalité sont moins polluants sur des longues distances, mais qu'ils sont énormément plus sur des petites distances. Les gens en ont massivement même en ville parce que les différents gouvernements se sont succédés les uns après les autres en faisant toujours une politique de peu taxer le diesel.
C'est ça.
Jusqu'à ce que Macron essaye de le taxer plus, mais là ça va donner toute sorte d'aventure sur laquelle on va pas revenir là tout de suite.
Et puis en plus après ça, et c'est aussi en général les voitures de parents, quand on achète une voiture d'occasion, souvent c'est une voiture diesel parce que les moteurs durent plus longtemps. Bref, tout ça étant que ce filtre est donc est auto-nettoyant, en tout cas il est censé l'être. Et c'est bien là le problème, parce que en gros, quand un truc se nettoie, ça veut dire que les choses ne s'en vont pas. Elles s'en vont du truc qu'on nettoie, mais pas du reste, quoi. C'est-à-dire quand vous faites la vaisselle, bah après ça va dans des eaux usagées. Bon, bah là, en fait, ça va pas dans des trucs usagés. En gros, hein, ce que les fabricants ont trouvé comme pour le nettoyer, c'est que tous les 500 km, quand la voiture atteint une certaine température, d'où les histoires de longs trajets, et ce, sur une distance qui peut aller jusqu'à 15 km, là, le filtre se nettoie par un procédé technique qui crame les particules collées au filtre. C'est-à-dire qu'elle les crame, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pas les mettre dans une espèce de petit cendrier qu'il y a sous votre voiture qu'il faut aller jeter à la poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait bondir les taux de particules à la sortie du pot d'échappement, donc qui se retrouve ensuite dans l'air, et peut les faire dépasser de 100% du seuil légal. Oui, c'est pas rien. Selon l'ONG qui a fait le calcul, 45 millions de voitures sont équipées de filtres en Europe, ce qui correspond environ à 1,3 milliard de régénération chaque année, soit environ 28 nettoyages par an et par véhicule. Donc en gros, en fait, ce qu'il y a, c'est ce qu'on est en train d'apprendre là, c'est que ces filtres, ils limitent la pollution à un moment donné. Mais en fait, à un autre moment donné, en fait, ils vont relâcher toute cette pollution. Alors, c'est peut-être pas équivalent à ce qu'il n'y en avait pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un bouchon et c'est là où toutes les voitures relâchent leur dégueulasserie dans leur filtre à particules, et ben voilà, vous fermez les fenêtres, coupez la ventilation et prenez les masques d'oxygène parce que vous perdez un an d'existence de vie. Donc voilà, bien sûr, normalement les voitures, hein, comme on l'avait déjà appris, mais doivent recevoir des homologations. Pour ces homologations, du coup, il y a tout un tas de tests où les constructeurs disent cette voiture, elle émet tant de particules et tant de, enfin voilà, tout de CO2, enfin voilà, tous les polluants et plein d'autres trucs. Du coup après, il y a des organismes indépendants qui viennent contrôler tout ça. Et bien sûr, en fait, ils vont pas mesurer, ils vont pas suivre la voiture pendant 2000 km avec une sonde
ça,
branchée sur le pot d'échappement.
Tous les 500 km, ça leur fait relativement peu de chances de tomber sur ce moment-là.
Exactement. Et du coup, voilà. Et en plus, c'était un truc qui était pas calculé avant. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va pas changer? On n'en sait rien. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a ça. Les plus gros, c'est-à-dire ceux qui relâchent le plus à ce moment-là et qui accumulent le plus de filtres à particules, ce sont ces espèces de nouvelles voitures ultra à la mode qui s'appellent les SUV, qui sont peut-être si vous voyez pas trop ce que c'est, mais en général
c'est des sortes de 4x4 urbains.
C'est ça, qui peuvent être des 4x4 ou pas, mais en tout cas c'est des espèces de grosses voitures un peu plus hautes. Voilà, c'est hyper à la mode.
Assez carré, très brillante.
C'est ça, ouais, c'est hyper à la mode.
Très viril.
Le d'immatriculation a bondi. C'est, bref, c'est la folie et ça pollue du coup énormément à cause de ça et à cause de plein d'autres trucs, de prendre de la place en ville, tout ça. Voilà. On a fini hein, ce Canu Info sur un petit angle écologiste.
Eh ben ouais, écoutez, on se retrouve dans un premier temps à la manif demain, 11h30, sans souci.
C'est ça, on signera des autographes. Non, j'ai...
Ah, si vous nous trouvez, voilà, on signe des autographes.
Et sinon, à la semaine prochaine. Et en attendant, vous allez écouter 25 minutes de bande continue. Ensuite, vous retrouverez Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire.
Ouais, bravo.
Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Ciao.
Mais pas du tout. Attendez, on a un générique de fond, on va le mettre quand même. Ah voilà. Bah, au revoir.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.